Bonjour et bienvenue sur le podcast Marketing Mania. Cette semaine, j'accueille Robin Hanna qui a créé un site qui s'appelle Conversation et qui a accompagné environ 12 000 personnes sur les 4 dernières années pour apprendre comment faire grossir une marque en e-commerce dans les aspects marketing et copywriting. Donc on parle ici vraiment du branding, de comment est-ce que vous racontez une histoire autour de votre marque. Et Robin a un parcours dans le domaine du luxe et de la mode. Il a aidé des marques comme Jacques Demeter qui vendent des chaussures, le site Bonne Gueule, très connu, qui vend de la mode masculine. Il les a aidés à développer leur stratégie marketing à travers tout ce qui est pub Facebook, mais aussi à travers le storytelling, le copywriting, les accroches, les captures, etc. Si vous vous intéressez à tout ce qui se touche à la persuasion, au positionnement, c'est un angle différent. En utilisant les mêmes sources, les mêmes concepts, les mêmes inspirations et les mêmes principes fondamentaux que moi, je peux utiliser dans mon propre business et avec mes clients, ils travaillent sur un marché qui est totalement différent, que moi, je connais moins bien, qui est l'habillement, la mode, le luxe. Donc, c'est intéressant de voir ces mêmes concepts appliqués de manière totalement nouvelle sur un domaine différent. Évidemment, il a eu beaucoup de très beaux succès dans ce domaine. Donc, pour tous ceux qui travaillent dans l'e-commerce, la mode, le luxe, ou qui ça m'intéressait par le branding, le positionnement, comment est-ce que vous racontez cette histoire, comment est-ce que vous donnez envie aux gens de voir un bénéfice dans quelque chose quand vous ne pouvez pas juste promettre qu'ils vont perdre 50 kilos ou qu'ils vont gagner plein d'argent. Comment est-ce que ça s'articule dans ces domaines? Robin a des beaux succès. On va parler avec lui de tout ça dans cet épisode, sans plus de transition, Robin Hanna. Le truc que j'avais repéré directement quand on s'était rencontré la première fois, c'était que toi, tu t'intéresses aux mêmes techniques que moi en termes de copywriting, etc. Mais tu as choisi de te spécialiser dans un marché très spécifique sur tout ce qui est luxe. Comment est-ce que tu es rentré dedans pour la première fois?
Je suis rentré dedans la première fois quand j'étais en stage, en fait. J'étais encore en études et j'ai toujours lu Bonne Gueule. Enfin, j'ai lu Bonne Gueule depuis 2010. Bonne Gueule, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site de mode masculine. C'est le plus gros site de mode masculine francophone. Et un jour, j'étais en stage justement dans une boîte d'avocats d'affaires. Je m'ennuyais et je regarde le Twitter de Bonne Gueule et je vois une campagne de crowdfunding d'une marque qui s'appelle Jacques et Demeter. Je vais dessus, j'ai envie d'acheter une paire de chaussures. Et je vois que la campagne décolle pas du tout. Donc je me dis, ok, bah tant pis, je vais revenir. Il y avait encore 2 mois. Je dis, je vais revenir un peu plus tard. Elle était à 7%. Je suis revenu un mois plus tard. Et là, elle était encore à 9%. Et je me suis dit, ah, putain, ça va jamais se lancer. Ça va jamais se lancer. Est-ce que je pourrais faire quelque chose? Parce que j'avais vraiment envie d'avoir une de leurs paires de chaussures. Je suis vraiment tombé amoureux de leur design. Et là, je me suis dit, bah tiens, ce que tu pourrais faire, comme tu t'ennuies, c'est utiliser l'une heure de train le matin et l'une heure pour le retour pour écrire, pour leur faire un petit plan de marketing de ce que tu ferais à leur place. Donc, je me suis posé, j'ai écrit un PDF de 18 pages sur le sujet. Je leur ai envoyé et ils m'ont répondu en me disant que c'était trop touché, qu'ils aimeraient bien, enfin si j'avais envie, je pourrais prendre tout le marketing en main, parce qu'ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient, et ils en avaient marre parce qu'ils avaient 3-4 ans qu'ils vivotaient et qu'ils n'arrivaient pas à faire décoller le truc. Donc j'ai commencé le marketing dans la mode comme ça.
Et à ce stade, c'était quoi toi ton expérience au niveau marketing? Comment est-ce que tu avais appris tout ça? Qu'est-ce qui t'avait donné l'idée que tu allais pouvoir apprendre des choses à ces gars qui le faisaient depuis 3-4 ans?
En fait, je m'intéresse vraiment énormément à la vente en ligne depuis mes 13 ans. Depuis mes 13 ans, je bouffe des MOOC, des livres, à un rythme assez effréné. Et je pense que c'était à 14 ans que j'ai écrit mon premier e-book que j'ai essayé de vendre en ligne, qui apprenait aux gens comment devenir riche sur un jeu qui s'appelait Dofus.
Ok. Donc, gagner de l'argent dans Dofus. À l'intérieur.
Exactement, gagner de l'argent dans Dofus.
Donc Dofus, c'est quoi? C'est un jeu massivement multijoueur?
Dofus, c'était un jeu en ligne dans Kama Games qui était... c'était un MMORPG qui existe encore. Hein, c'est Wakfu. Hein, enfin, ils ont fait Wakfu maintenant. Mais c'est un jeu dans Kama Games et qui était énorme à l'époque. Qui était énorme à l'époque. Et
c'était la grande époque des Allopass où il fallait s'abonner avec un compte.
Exactement.
Premium, avec un Allopass qu'il fallait demander à tes parents.
Voilà, c'est ça. Ou sinon, tu prenais le fixe de tes parents et tu appelais en secret et t'espérais qu'ils te grillent pas, ouais. Et ouais, du coup, j'étais. Moi, le jeu, ce qui me passionnait dans le jeu, vraiment, c'était faire de l'argent. Contrairement à World of Warcraft ou autre, l'économie est totalement libre. Donc, tu peux faire ce que tu veux, tu peux acheter, revendre, tu peux faire ce que tu veux. Et tout ce qui me passionnait, c'était faire de l'argent. Et donc j'ai trouvé les meilleures combines, les meilleures stratégies pour faire de l'argent. Et pendant un bon moment, j'étais parmi les plus riches de mon serveur.
Donc tu as fait un e-book sur comment appliquer les mêmes techniques.
Exactement.
Et comment est-ce que tu le vendais ?
Ça c'est une très bonne question. En fait, il y a des choses que je n'avais pas pris en compte, des choses complètement logiques quand on y réfléchit. C'est que les gens à qui je le vendais, c'était des collégiens, et c'était des collégiens dans les années 2000. Donc ils étaient très loin d'avoir une carte de crédit. Et je me suis rendu compte de ça au moment où j'avais fini d'écrire mon livre. Donc qu'est-ce que j'ai fait ?
Tu pouvais pas te faire payer en allopass ? Ça marche comment ?
Bah ouais, mais je voulais vraiment me faire de l'argent, quoi. Les allopass auraient été cool, mais ouais. Je voulais me faire de l'argent. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je les ai mis... J'ai mis le PDF sur des clés USB et j'ai vendu ça sous le manteau dans la cour de récré.
Donc tu le vendais en one-to-one, t'en as vendu combien ?
Exactement. Je sais pas, j'ai dû en vendre pour 400 euros en tout.
Et tu te souviens de combien tu le vendais ? T'as fait coûter combien de clients ?
Oh, je le vendais pour 22 euros.
Ouais, c'est pas mal.
Parce que je voyais que tous les e-books partaient un peu à ce prix-là. Mmh. Et surtout, je leur disais, mais parce que les gens à qui je le vendais, c'était des personnes qui achetaient de l'argent en jeu. Mmh. Donc, ils achetaient 1 million de Kama, qui est la currency du jeu. Ils achetaient ça à 16 balles à l'époque. Maintenant, c'est moins avec l'inflation. Mais donc, je leur disais, mais... Ça, tu vas le rentabiliser vite fait parce que je te montre exactement comment je fais pour gagner 20 millions à la journée.
Et qu'est-ce qui a fait qu'à cet âge-là, parce que je connais pas beaucoup de gens qui se sont intéressés au business en ligne et à vendre des e-books à cet âge-là. Généralement, les gens ont un peu une première expérience professionnelle et se disent « Ah putain, j'ai pas envie de faire ça toute ma vie » et s'intéressent à ça à ce moment-là. Qu'est-ce qui a fait que... C'est quoi le premier moment où tu as été exposé à cette idée que tu pouvais vendre des trucs sur Internet ou gagner de l'argent un peu de ton côté ?
En fait, c'était l'année où j'étais en Allemagne. En fait, non, j'ai grandi en Bretagne. J'ai fait tout mon collège en Bretagne. Et en seconde, je suis parti un an chez mon père en Allemagne pour faire la seconde en Allemagne pour améliorer mon allemand, mais surtout à l'écrit. Et là-bas, j'avais presque pas cours. J'avais très rarement cours et je m'ennuyais pas mal. Et il y a un truc qui m'énervait un peu dans la relation avec mon père. C'est qu'il était, il avait très peu de temps, il est médecin, il avait très peu de temps, et donc la seule relation qu'on avait, c'était toujours basée sur l'argent. C'était « je peux te donner de l'argent, je peux t'offrir des trucs, donc c'est mieux que passer du temps avec toi ». Et j'avais vraiment très envie de gagner mon argent moi-même, très rapidement, pour me dire « voilà, j'ai pas besoin de ton argent ». Et c'était vraiment ça qui m'a motivé. Je me disais « putain, j'ai envie de me faire mon argent moi-même, j'ai envie d'être indépendant pour avoir plus de vraies relations qui ne soient pas basées sur l'argent ». Un peu un côté... C'est très adolescent comme réflexion.
Du coup, t'as fait quoi ? T'as tapé sur Internet comment gagner de l'argent et t'as vu un article de blog qui disait vendre un e-book ?
Yes. Non, j'ai pas vu d'article de blog. Déjà, j'ai cherché en allemand et je suis tombé sur un mec, je sais pas s'il existe encore, qui avait une villa immense, enfin, je sais pas s'il l'avait vraiment, qui a une villa immense en Amérique du Sud et qui faisait des vidéos de lui en hélicoptère. Enfin, incroyable quoi quand t'as 15 ans et qui t'explique qui s'appelle Sven et Sven met Geld mit e-books, ça s'appelait donc argent avec e-book, geldmitebooks.com. et du coup je regardais un peu et il montrait comment il créait des sources de revenus passives avec justement des e-books.
Ok, donc ça t'a inspiré, t'as lancé
et
le premier business de
c'est ça exactement
ouais.
Ça
c'est ouf. Mais t'as un peu ce côté, t'as, les Américains ont toujours un truc où, ouais, moi quand j'avais 8 ans et demi, j'ai fait un business où je tondais les pelouses de mes voisins et après j'ai livré le journal et tout. Ils ont toujours un peu cette histoire de, ils ont commencé super jeune. C'est marrant, t'as le même truc, mais avec Dofus. Moi j'ai aussi très bien le souvenir de l'époque où tout le monde jouait à Dofus et les gens parlaient que de ça. Et c'était un phénomène culturel, quoi. Proche de ce que Fortnite peut être aujourd'hui. Ah ouais. Je pense que ça avait un petit peu moins de pénétration et surtout c'était uniquement francophone, je pense, Dofus. C'était en Allemagne du coup ?
Non, c'était pas en Allemagne. Personne ne connaissait en Allemagne. Mmh.
Okay, donc c'est une boîte française et tout, c'est assez fou.
Ouais.
Et t'avais bidouillé pendant pas mal d'années sur le marketing, t'avais commencé à t'intéresser à ça, t'avais lu pas mal de conseils. Donc tu vois ces mecs qui font un Kickstarter, pas un Kickstarter du coup, c'était peut-être une autre plateforme.
Pour le cours. Oh, pardon, pour
Pour
la.
Demeter.
Ah ouais, c'était un Ulule, ouais. Exactement,
Ouais, c'est
c'était
un
un
Ulule, donc
Ulule.
ils font cette campagne de financement, ils lèvent pas encore trop d'argent. Toi, tu te dis, ok, je vais les aider parce que je me suis pas mal renseigné sur le sujet. Ils ont pas l'air
Ouais.
forcément d'être passionnés par tout le côté marketing, peut-être plus par tout le côté
C'est
chaussures.
ça.
Donc, je vais leur envoyer
Et
un
en
peu
fait,
d'aide.
le truc que avant ça, parce qu'on passe quand même de 2006 à 2014, avant ça, j'avais poncé pas mal de MOOC différents. Et je m'étais fait des amis parmi les entrepreneurs du web américain. J'étais très, très pote et toujours de Daniel Piazza, de Rich 20 Something. Et lui, je l'avais aidé justement à faire le marketing de son premier cours. J'étais un de ses premiers lecteurs. J'ai commencé un peu au même moment que Vidéofruit, Brian Harris. Que aussi, on bossait un peu ensemble parce qu'on était dans les premiers de la promo de Noah Kagan, du cours d'AppSumo de l'époque.
Ouais, qui était
Qui était.
Make a thousand dollars, un truc comme
Exactement,
ça,
ouais, c'est
c'est ça?
ça.
Ouais.
C'est ça. Donc, ouais,
Donc
je.
c'était un cours qui t'apprenait à faire tes 1000 premiers euros. Ils avaient un marketing d'ailleurs assez cool là-dessus, enfin tes 1000 premiers dollars, où ils avaient monté un business en un week-end, un business de beef jerky, si je me
Bizarre,
souviens
ouais,
bien.
juste,
Donc
ouais, exactement, ouais. C'était vraiment
c'était
bien fait.
et du coup ils avaient cette étude de cas qu'ils avaient faite. Ouais, donc en week-end il allait spammer tous ses contacts sur Facebook pour essayer de vendre 1000 balles de bœuf à tout le monde. Et après il avait une combine où il avait filé le business à un de ses abonnés, je crois,
Ouais,
pour
c'est
le
ça,
continuer.
il a fait gagner son business, ouais. Tu pouvais gagner
Ouais.
son business, Sumo Jerky.
Ouais.
C'était pas mal, c'était une très belle étude de cas. Et ouais, lui, j'étais tombé dessus par un article qu'il avait fait chez Tim Ferriss. Qui a fait exploser pas mal de gens, hein, Tim Ferriss, de toute manière.
Ouais.
Et ouais, donc je me suis. J'étais déjà. Et à aucun moment, en fait, j'ai lancé un truc par moi-même. Tout ce que j'ai fait, c'était.
Pourquoi?
Je sais pas, j'étais en études. Mes parents m'ont toujours poussé vers des études. Ils voulaient que. En fait, avec toutes les langues que je parle, ils me disaient, mais fais l'ENA, deviens ambassadeur, fais de la diplomatie. Donc j'ai fait Sciences Po et j'ai fait un master en droit administratif. Et j'étais très loin du marketing. Et j'avais pas beaucoup de temps à côté de mes études. Et tout le temps que je prenais, c'était pour me former. Mais j'avais pas le temps de lancer vraiment un truc à côté. Et quand je voulais faire des choses, genre vraiment pratiques, j'aidais plus mes potes à lancer leur truc qu'autre chose.
Ok. Mais tu avais quand même une visibilité sur un certain nombre de projets, donc tu avais probablement une certaine confiance dans la valeur que tu pouvais apporter.
Ah, exactement, ouais. Exactement, j'aidais à structurer des lancements de produits, je faisais plein de trucs. Genre, j'étais vraiment dans la stratégie et j'ai fait gagner pas mal de thunes à des entrepreneurs du web, mais américains. Et je me suis dit, c'est. J'avais pas envie d'être une énième personne aussi qui gagne de l'argent en ligne en apprenant aux gens à gagner de l'argent en ligne. J'avais envie de vraiment vendre quelque chose de difficile. Et je me suis dit, mais quoi de mieux que de vendre des produits qui ne sont pas des produits de nécessité, donc le luxe au final, genre des vêtements de luxe, des chaussures de luxe, des choses auxquelles on a énormément d'objections à l'achat. Et des choses aussi où enfin, l'idée reçue sur le luxe, c'est qu'il faut avoir une immense image de marque, c'est que c'est le seul moyen enfin de vendre quelque chose. Donc, opposé au direct response. Normalement, le direct response ne devrait pas marcher sur le luxe, le direct response marketing et le copywriting. Et je me suis dit, bah, j'ai envie de tester sur une marque inconnue qui fait des chaussures à 350-600 euros.
Donc
Et si j'arrive à vendre ça en France, j'arrive à tout
comment est-ce que
vendre.
tu arrives à vendre ces chaussures? Comment est-ce que tu appliques ces concepts de direct response qui généralement fonctionnent sur un framework de besoin qui a été clairement défini, de douleur, de tiens, je veux perdre du poids, etc. Comment est-ce que tu transmets ces trucs-là dans l'univers du luxe où justement tu as dit que la plupart des pubs qu'on a l'habitude de voir dans le domaine du luxe sont très basées sur le branding et l'image de marque? Et du coup, au moins cet aspect de vente directe, si on pense de manière cliché. Donc toi, comment est-ce que tu appliques ces méthodes-là, dans ce premier projet?
Dans le premier projet, donc Jacques et Demeter, j'ai appliqué tous ces concepts-là. En fait, pour refaire l'historique, quand je les ai contactés, ils avaient une base mail de 900 personnes. 450 qui étaient des personnes inscrites à leur newsletter et quelques anciens clients, et 450 qui étaient chopés à gauche à droite, mais qui s'étaient jamais inscrits à rien. Donc j'avais 900 mails et je me suis dit, j'avais vraiment l'idée de me dire, ok, l'email marketing, c'est ce qui fonctionne le mieux, c'est là où on a le plus de visibilité, c'est là où on a le plus de temps pour convaincre les personnes, donc je vais vraiment partir sur du full email. J'ai créé une série de lancements en 7 mails. Je vais faire les 7 mails. Il y avait, tout le début, c'était sur le fait que je m'énerve, que le fondateur s'énerve sur les marques qui se vendent d'avoir de la croûte de cuir, donc qui est la pire sorte de cuir possible, mais les gens ne le savent pas. Donc c'était tout un mail d'éducation sur qu'est-ce que c'est la croûte de cuir et pourquoi est-ce que c'est vraiment la pire sorte de cuir qu'on puisse avoir, et aussi pour l'environnement, et aussi pour la qualité de vos chaussures. Ensuite, il y a tout un mail où j'explique comment prendre soin de ses chaussures. Ensuite, j'ai un mail où j'explique la différence, enfin, quel animal donne quel cuir et pourquoi est-ce que nous, on a choisi le cuir de veau. En fait, à chaque fois, je leur dis, ça c'est nul, ça c'est beaucoup mieux. Et à la fin de ces mails, je suis sorti, regardez, on a sorti des chaussures qui respectent exactement tous les trucs qu'on vous raconte. Et normalement, d'autres marques, vous le vendrez à autant parce qu'elles ont des boutiques, un réseau de distribution, elles ont une image de marque assurée, des vendeurs. Nous, on le vend à autant, ce qui est déjà en dessous du prix en dessous du prix du marché. Et là, en période de pré-lancement, on les vend à autant, ce qui devient complètement ridicule. Ça a ultra bien marché. C'est un peu tout ce que Atelier Particulier, Asphalt et autres font après. Asphalt, peut-être que certains connaissent parce qu'ils ont un marketing un peu comme ça. Mais vraiment, genre, sans avoir peur, quoi.
Qu'est-ce que tu veux dire sans avoir peur?
Sans avoir peur de tout ce qu'on. Enfin, ouais, c'est pas très clair comme ça. Mais quand on est dans la mode, tout le monde a peur de faire grossier, d'être un vendeur de tapis, de faire peur, de parler prix, tout ça. Alors que c'est des choses qui intéressent les personnes. Tu peux aller dans n'importe quelle boutique parisienne où tu as de la mode haut de gamme, voire du luxe. Les personnes se comportent comme n'importe quel autre magasin. Ils regardent les prix, ils touchent, ils ont envie qu'on leur raconte des histoires. Et en fait, tout le côté branding, dans ma manière d'approcher les choses, je la remplace par des histoires. Je pars du principe que les histoires sont le meilleur médium pour être mémorable, pour créer du désir et pour créer vraiment de l'excitation. Donc à chaque fois que même si c'est un prix, même si c'est un petit détail, j'essaie toujours de l'englober dans une histoire.
Donc, par exemple, qu'est-ce que tu racontes comme histoire sur les chaussures? Ça serait quoi le. Parce qu'un Kickstarter, notamment, ou on va plutôt dire une campagne de financement participatif, est toujours centrée sur souvent une histoire d'origine ou comment l'idée est née, d'où vient l'ambition initiale. Parce que bah forcément, il y a cet aspect, d'une part, d'acheter le produit en prévente pour moins cher, mais il y a aussi l'aspect de soutenir un projet. Et pour soutenir le projet, il faut croire au projet, il faut comprendre ce que c'est le projet et ce qu'il représente. Je suis curieux de voir comment est-ce que toi, tu as abordé ce sujet avec eux. D'où est venue cette histoire et comment est-ce que tu l'as présentée?
Dans toute la campagne, en fait, à aucun moment on les a mis en avant. À aucun moment on a mis Maxime, le fondateur, en avant. On est vraiment parti du problème qui est vos chaussures en cuir ne tiennent pas, quand vous les achetez, elles sont belles et resplendissantes parce qu'elles sont traitées, quand vous les voyez sur les étagères, et en quelques mois après, à chaque fois, il va falloir les changer parce qu'elles sont devenues dégueulasses. Et le problème, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on fait pour avoir des chaussures qui sont toujours belles sans avoir à en changer tout le temps et sans avoir à s'en occuper tout le temps et comment s'en occuper correctement. Donc c'était ça, c'était vraiment un problème complètement rationnel, très peu luxe. Et peu à peu, j'ai expliqué comment est-ce qu'on pouvait faire. Et après, je suis arrivé, le seul moment où j'ai parlé vraiment du fondateur, c'était on a essayé de résoudre tous ces problèmes, mais à aucun moment on est allé dans j'étais employé de banque avant, j'étais pas content dans mon métier, j'ai toujours adoré la chaussure, c'est une passion qui est transmise dans notre famille de père en fils. Non, rien de tout ça. À aucun moment on s'est justifié de quoi que ce soit. C'est intéressant, j'avais jamais remarqué, mais à aucun moment on a fait toutes ces choses qu'on se sent obligé de faire normalement. On s'est vraiment dit, ils s'en foutent de nous, ils ont un problème, ils ont une envie, ils ont un désir, on va leur montrer qu'on peut le régler. Et ça va suffire en termes de street cred.
Et comment du coup est-ce que tu es rentré concrètement dans le projet? Comment est-ce que eux ont réagi par rapport au PDF et comment est-ce que ça s'est passé ensuite?
Donc j'aurais envoyé un PDF que j'ai écrit moi-même. Donc il n'y avait pas de, c'était pas un PDF de prestataire ou autre qui te ressort la même chose à chaque fois en changeant juste le nom sur le truc. Et j'ai envoyé ça, ils étaient très touchés, ils m'ont envoyé un long mail pour me remercier, pour m'expliquer un peu qu'ils étaient dans la galère et que ça décollait pas et qu'ils savaient pas quoi faire et que si je voulais, je pouvais les aider, qu'ils n'avaient pas d'argent mais qu'ils pouvaient me filer des paires de chaussures. J'avais pas besoin d'argent. Et j'étais très content qu'on me laisse la main sur un projet, genre complètement, et qu'on me fasse confiance, que je puisse tester des choses. Et c'est ce que j'ai fait donc j'ai réécrit toutes leurs pages, Kickstarter. J'avais pas le temps, on avait 2 semaines et demie à ce moment-là. Donc j'ai réécrit toutes leurs pages Ulule et j'ai écrit tout le lancement par mail. À côté de ça, j'ai contacté, enfin, je leur ai fait une liste de personnes à contacter, de blogs intéressants sur le Made in France, sur sur tout ce qui est luxe et entrepreneuriat éco-responsable, pour qu'ils contactent par exemple des blogueurs de Le Monde, etc., pour avoir quelques backlinks et pour avoir un peu de trafic. Et ouais, on a réussi à atteindre les 100% 2 jours avant, et après ça a décollé tout seul parce qu'on a été mis en avant par Ulule. Mais presque la moitié des ventes viennent du mail. On a réussi à vendre une quarantaine de paires de chaussures à ces 900 personnes qui étaient sur la base et qui étaient complètement froides.
C'était quoi l'objectif total de la campagne?
C'était 100 paires.
Donc ça représentait 30 000, quelque chose comme ça?
Ouais, c'était ça, ouais.
Ok. Et comment est-ce que ça s'est passé ensuite? Tu as continué à bosser avec eux? Tu es entré dans la boîte?
En fait, après, ils m'ont demandé, en fait. Il m'a demandé, parce qu'à ce moment-là, c'était plus que Maxime Toussaint, il m'a dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Et je lui ai demandé, ça dépend, est-ce que tu as de l'argent? Il m'a dit, bah non, j'ai pas trop d'argent. Là, j'ai gagné, j'ai un peu de trésor avec les lancements qu'on vient de faire, mais c'est pas au fond plus. J'ai dit, ok, mais donc t'as pas l'argent pour faire de la publicité. Il m'a dit non. Il m'a dit, bon, ok, bah, va falloir trouver un autre moyen de faire du trafic. Et je lui ai dit, bah écoute, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer un blog sur ton site et tu vas écrire un article qui casse tout par mois. Un article qui casse tout. Donc un article, tu prends un sujet qui intéresse ton audience, qui est cherché. Donc on a fait une petite recherche de mots-clés. Et on va prendre un article à chaque fois et il va être mieux illustré que toute sa concurrence, il va être mieux écrit que toute sa concurrence. En fait, on a appliqué la technique de Brian Dean, le Skyscraper technique de Backlinko. Et à chaque fois, on a créé le meilleur article possible. Sur chaque article, pour chaque article, on a créé un bonus qu'on pouvait obtenir contre une adresse mail. Donc on a créé à chaque fois un lead magnet pour chaque article. Et ça nous a permis de créer en fait une machine à générer des leads. Aujourd'hui, le site, et même après 18 mois, on était déjà à 20 000 visiteurs par mois. Et on s'est positionné très rapidement sur tous les premiers mots-clés. Et là, tout l'art, c'était de prendre des personnes qui tapent quelque chose sur la chaussure. Qui tombent, les articles qui ramènent le plus de trafic, c'est comment agrandir des chaussures et comment cirer des chaussures. Comment agrandir des chaussures, c'est un peu une recherche de raccroc. C'est pas des personnes qui ont envie de mettre 400-500 balles dans une paire de chaussures. Donc, toute l'idée, c'est de les prendre, de les faire venir sur le site, de les transformer et de leur expliquer qu'il ferait mieux d'acheter des chaussures à 350, 400, 500 balles. Et c'est là où vraiment, dans
Et donc
l'onboarding,
ça
il
joue
fallait être
sur
très
l'email.
fort. Ouais, c'est que de l'email. Toutes les ventes se font par email. 2 fois par an, on fait des lancements, des gros lancements par mail, et on vend tout par mail, comme le font les Américains avec leur MOOC, leur formation.
Attends, tu vends que 2 fois par an, hein, lors de lancement?
Non, 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 mais lors de lancement, à chaque fois qu'on sort une nouvelle collection, on vend lors de lancement.
Ok.
Des
Et le
lancements
lancement
sur.
a une durée limitée, il y a une réduction,
Yes.
comment ça fonctionne? Ok.
Il y a une petite réduction de 5%. En fait, il y a une réduction, mais il n'y a pas qu'une réduction. En fait, ce qu'on a remarqué, et ce que j'avais déjà remarqué auparavant, pendant des formations, et ce que j'ai remarqué en travaillant avec Brian Harris de Vidéofruit, c'est qu'à chaque fois que tu crées une deadline, il y a des pics de vente. Donc j'ai dit, vas-y, Maxime, on va faire exactement la même chose sur les chaussures. On va faire un petit pré-lancement où on va dire, ah tiens, je pense à faire ces paires-là, vous en pensez quoi? On montre des croquis, on raconte un peu des petites histoires, juste pour leur mettre une graine dans la tête pour qu'ils se disent, il y a un truc qui va sortir. On fait ça avec des mails à intervalles de 5 jours, on en fait 3. Ensuite, on dit, ça y est, toutes les choses dont je vous ai parlé, on les a réalisées, on commence à présenter les différentes nouveautés. Toujours dans un storytelling qui est tourné client. Et ensuite, on dit, voilà, ça va, les lancements, les précommandes vont ouvrir dans autant de temps parce qu'on a marché par précommande, par besoin financier au départ. Je ne vais pas se permettre d'avoir du stock. Donc, les précommandes ouvrent. Pour les early birds, en fait, on a repris le système utilisé dans l'événementiel ou sur Kickstarter. Early bird, tu as la chaussure, tu as moins 5%, moins 10%, des embauchoirs, donc des choses qu'on met dans les chaussures pour les faire tenir, et un kit d'entretien. Donc un gros bonus, quoi. Mais on s'y retrouvait quand même très bien financièrement. Tac, ouverture du early bird, un mail où on raconte quelque chose. Un mail fermeture de l'early bird dans un jour. Paf. On continue. Maintenant, le bonus, c'est c'est moins 5% embauchoir. On refait la même chose, 2-3 jours. Tac. Maintenant, c'est plus que les 5%. On raconte une histoire. À chaque fois, on entrepose avec des mails, on raconte des choses, quoi. Donc, on est vraiment sur une série de 14 mails au moins. Et après, on fait J-3, J-1. H-1, et parfois une réouverture panier à la fin. Pas trop souvent parce que sinon c'est cramé.
Il y avait des gens qui faisaient ça dans le domaine de la mode ou parce que ça c'est vraiment un truc, c'est intéressant de voir une technique qui est devenue cliché dans le domaine de la formation, mais qu'en dehors de ce domaine-là, peu de gens utilisent.
Non, il n'y a personne qui utilise ça. Les seuls qui faisaient des lancements, c'était Bungle, et leur lancement se limitait à un mail de lancement.
D'accord. Et le reste de l'année, du coup, c'est disponible sur le site en Evergreen classique.
Ouais.
Et je suppose que tu as du coup une séquence email automatique quand les gens s'inscrivent à ton bonus sur l'article, qui là va faire un peu le même job et
Yes.
raconter ton histoire et développer un petit peu ces croyances de
Ouais.
base.
Et j'essaie toujours de raconter des histoires qui sont un peu folles, mais sans aller trop. Par exemple, une des premières histoires que je raconte dans l'onboarding, qui tourne depuis 2014, du coup, c'est comment j'ai surpris. En rentrant d'une soirée habillé, mon colocataire en train de cirer ses chaussures avec une vieille peau de banane.
Ok.
Et comment je lui ai arraché la peau des bananes des mains en lui disant qu'est-ce que tu fais? Et lui me dit non, c'est ma grand-mère qui me raconte, c'est ça. Donc j'ai dit il y a beaucoup de fausses croyances qui circulent sur la chaussure, peu de gens sont éduqués dessus, on va refaire votre éducation.
Et donc, du coup, cet email-là, il est écrit dans. Il est signé par qui? Si c'est une anecdote
Il
personnelle.
est signé par
Ok.
Maxime. C'est Maxime. J'ai repris des anecdotes de partout et je les ai attribuées à
Ok.
Maxime.
Et ça donnait quoi pour eux, toute cette stratégie en termes de chiffres?
En termes de
Ouais.
chiffres, tu veux dire sur les lancements ou en termes de CA
Ouais, en termes de
global?
CA sur leur boîte, qu'est-ce que ça les aidait à accomplir? Où est-ce qu'ils en sont maintenant?
Aujourd'hui, il est toujours tout seul, il n'a pas d'employé, la plupart de ses ventes se font par mailing. Et aujourd'hui, il gravite, ça aussi c'est marrant parce que c'est rare dans la mode, il a capé sa boîte à 500 000 euros de CA. Parce qu'il n'a pas envie de faire plus,
Tu veux dire qu'il a décidé que ça ira pas au-delà?
parce qu'au-dessus, il va falloir embaucher, au-dessus, il est obligé d'être patron, ce qu'il n'a pas envie d'être, il a envie d'être tranquille. Donc c'est vraiment une marque de chaussures qui finance un lifestyle business, quoi. Ce qui est amusant, ce qu'on voit jamais.
Ouais,
C'est vraiment un
donc
lifestyle business autour de la chaussure.
il est là tout seul, il gère tout son site, tout son système de vente, et derrière, il a, j'imagine, des artisans qui créent les chaussures et qui font leur job.
Exactement, ouais. Et au début, on se faisait vraiment avoir par l'atelier parce que l'atelier nous livrait très souvent en retard. Une fois, il y a eu l'armée française qui a commandé juste après nous, ce qui a fait que nos chaussures, on les envoyait 6 mois après à des gens les avaient achetées. C'était un peu chiant. Et bref, au fur et à mesure, on est devenu le premier client de l'atelier. Maintenant, on est reçu comme des rois, quoi. Mais c'était quand même un gros travail. Et ouais, donc au début, on est passé de 30 000 euros de CA à 120 000, ensuite à 300. Après, il y a une petite période de structuration jusqu'à 500K, quoi.
Du coup, si lui, il avait décidé de caper sa boîte, à un moment donné, il avait plus besoin de toi.
Moi, je l'ai. En fait, pour tout te dire, la boîte était à lui et à sa copine. Et. Il a racheté ses parts et donc je suis un peu intéressé dans la boîte.
Ok.
Mais en fait, même sans ça, il m'a permis de tester des choses que personne d'autre m'aurait permis de tester. Je pouvais faire ce que je veux avec sa boîte. Il m'a laissé mes champs libres complets. Et ça n'a pas de prix. C'est incroyable. J'ai pu tester ça dans la mode et dans le luxe. C'est fou. Et donc ça vaut tout l'argent du monde pour moi.
Et c'est après ça que t'es passé chez Bonne Gueule, du coup.
C'est après ça. En fait, donc on a travaillé le référencement du blog. Et Bonne Gueule, enfin Benoît a remarqué que on était passé au-dessus d'eux sur des mots-clés. En fait, à chaque fois qu'on a créé un contenu, il y a un contenu où j'ai vraiment poussé le vice à fond, on s'est dit, OK, on veut être les premiers. On veut être les premiers et on avait toujours un gros focus sur les liens vers notre contenu. Donc on voulait avoir le plus de backlinks possible, ou d'autres sites qui vont vers notre contenu. Et ce que j'ai fait à un moment, c'est que je me suis demandé, OK, est-ce qu'il y a des personnes dans l'industrie de la chaussure? Donc des personnes dont les liens vaudraient très cher parce qu'ils sont directement liés à notre industrie. Donc Google le reconnaît et nous référence encore mieux, qui ont des vieux sites et des sites avec des grosses autorités. Et là, je me suis dit, oui, en fait, les cordonniers ont tous créé leur site au début d'Internet. Les sites sont dégueulasses, mais ils sont vieux, donc ils ont une belle autorité de domaine. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une carte des meilleurs cordonniers de France. J'ai contacté tous les cordonniers pour qu'ils me racontent un peu leur vie, pour avoir des anecdotes. Et je leur ai dit, voilà, j'ai fait une carte des meilleurs cordonniers de France. Vous allez apparaître dessus. Ce sera le premier résultat Google. Aidez-moi et mettez un lien vers cette carte sur votre site. Et donc, j'ai chopé des dizaines de sites de liens comme ça. Et une dizaine de liens d'autorité dans une niche comme ça fait vraiment la différence.
Du coup, là, pour clarifier, la carte des meilleurs cordonniers, du coup, hébergée sur ton site que tu cherches à référencer. Donc, tu as
Exactement.
des liens qui vont pointer vers ce site et qui vont apporter de la crédibilité aux yeux de Google à ce site-là. Et ça fait des liens qui vont faire monter les articles que tu cherches à faire référencer.
Exactement.
Du coup, tu es un peu à cheval entre ce côté de référencement, gros hacking et le côté pur écriture, copywriting.
Ouais, oui, enfin, dès que je pense que c'est le cas pour pas mal de monde, dès que tu t'intéresses à un truc sur le web, tu remarques que ça va pas sans ça, et ça va pas sans ça, et ça va pas sans ça. C'est impossible de faire du copywriting sans un minimum s'intéresser à l'optimisation de conversion, donc le CRO, et sans faire du SEO, et sans non plus s'intéresser un peu aux mécaniques de la publicité en ligne.
Ouais, je vois. Et donc, tu parlais tout à l'heure de Bonne Gueule. Bonne Gueule avait repéré que tu rankais sur les résultats. C'était quoi ton rôle après chez eux?
J'étais responsable de toute l'acquisition, de toute la conversion.
Ok. Donc, tu faisais de la pub Facebook, etc. ou c'était plus ton référencement?
Je faisais de la pub Facebook. J'étais pas du tout dans le référencement. En fait, tout mon objectif en arrivant, c'était de faire croître le chiffre d'affaires au maximum et de préparer aussi l'après, donc à savoir le chiffre d'affaires des années suivantes. Je ne suis pas resté longtemps, ce qui était pas l'idée d'eux à la base, mais ce qui était mon idée, parce que je vois mon travail comme étant celui qui met les choses en place et qui les délègue et qui les laisse tourner après. Donc ce que j'ai fait, c'est Bonne Gueule fonctionne énormément par mail. C'est de l'emailing. Les lancements se font par mail, et je pense que n'importe quelle personne qui a suivi Bonne Gueule, c'est ça. Donc.
Donc, Bonne Gueule, c'est un site de mode masculine et à l'origine, et tu me diras si je me trompe, ils ont commencé, ils vendaient plus des e-books sur comment bien s'habiller, etc. Et par la suite, ils ont créé leur propre marque de fringues, c'est ça?
C'est ça, en 2014, ils ont créé leur propre marque. En 2007, le blog a été
Donc, c'est au
lancé.
moment où toi, t'es rentré?
Moi, je suis rentré en 2016, je suis rentré avec la levée de fonds. Parce que du coup, ils avaient besoin de fonds pour me recruter, donc j'ai attendu la levée de fonds.
Ok, donc ils ont levé de l'argent sur quoi? Sur du capital risque standard en disant on va grossir et on va gagner plein d'argent.
Non, non, ils ont fait ça très proprement. Il y a un article sur leur site qui explique exactement leur levée de fonds et pourquoi ils ont vendu très peu de parts. Et pour avoir toujours leur vision et pour croître de manière responsable. C'était très bien fait. C'est ce qui me plaisait aussi énormément dans la boîte. Toute cette approche très humaine et très pied à terre.
Donc, pour remettre, donc, tu t'as dit, ils ont leur blog, ils vendent des formations dessus. À un moment donné, ils décident de lancer une marque de fringues. Au moment donné, toi, tu rentres, ils ont déjà des vêtements qui sont déjà vendus. Donc, typiquement, c'est quoi? Eux, ils font de la chaussure aussi ou est-ce que c'est
non.
des.
Bah, aujourd'hui, ils font de la
ils sont pas
chaussure.
dessus?
Avant, ils font de la chaussure aujourd'hui. Avant, ils n'en faisaient pas trop. Ils ont fait quelques sneakers en collaboration. En fait, ils sont passés de e-book, qui a financé ensuite un cours en ligne, qui lui, après, a financé la marque. Et entre-temps, ils ont fait des collaborations avec des marques, où la marque créait, et eux, ils exposaient via tout le trafic qu'ils avaient, via leur blog,
Okay.
qui aujourd'hui s'appelle Le Média, qu'ils veulent, qu'ils appellent plus blog.
Ok. Donc, toi, tu es là, ton rôle, c'est de capturer des emails et d'écrire des emails de vente.
Exactement. Moi, j'écris les mails de lancement, je n'écris pas les articles de lancement, je ne crée pas les pages de vente. Les pages de vente qui étaient créées avec mon associé actuel, Lucas Maria Parigassam, qui était la tête de, enfin, le visage de Bungle, qui lui faisait tout le lancement. Donc, on collaborait sur le lancement. Et donc, j'écrivais les mails de vente, les mails d'annonce. Et je faisais en sorte de récolter le plus de mails possible. Donc j'ai mis en place la même chose que chez Jacques Lemaitre, à savoir j'ai pris les meilleurs articles et j'ai mis des lead magnets dessus. Et ensuite, tout le reste passait par de la publicité Facebook. L'acquisition, c'était vraiment que des campagnes de lead gen. Et quand je suis arrivé, ce qu'ils faisaient tourner, ce qui faisait qu'ils attrapaient des mails, c'était un guide qui était le guide de l'homme stylé mais mal rasé. Les essentiels, les conseils de base pour mieux s'habiller. Ils faisaient tourner ça en publicité de Facebook. Je me souviens, on était invité par Facebook, dans les locaux de Facebook, par le directeur commercial France, parce qu'il voulait faire une étude de cas sur nous, parce qu'il trouvait que c'était génial et qu'on avait des beaux résultats. Mais moi, je savais en arrivant qu'on pouvait faire beaucoup mieux. Je savais qu'on pouvait faire beaucoup mieux. Je me disais, mais c'est le guide, il n'est pas forcément intéressant, il n'intéresse pas tout le monde. Et Benoît était tout à fait d'accord avec moi. Qui se réveille le matin en se disant, j'ai envie d'apprendre les essentiels pour bien m'habiller? C'est pas un besoin, c'est pas une envie, c'est pas un désir profond. Je me suis dit, mais il y a 6 millions de lecteurs. Quand j'étais, il y avait 6 millions de lecteurs à l'année. Je me dis, dans les 6 millions de lecteurs, il va y avoir des intérêts et des profils différents. Donc je me suis posé. Et j'ai créé ces profils. J'ai créé ces profils, ces hypothèses. Ensuite, je les ai testés en regardant un peu toute la communication que notre community manager avait avec l'audience. Donc j'ai repris tous ces fils de discussion et de questions. Je les ai disséqués, j'ai essayé de voir s'il y avait des patterns, s'il y avait des mots qui revenaient, des questions qui revenaient. Ensuite, ce qui m'a permis d'encore une fois aller plus en détail dans les profils. Ensuite, je suis allé en magasin, parce qu'on avait un magasin à l'époque, dans deux, il y avait Lyon, mais je ne suis pas allé, pour demander aux vendeurs. Donc j'ai invité les vendeurs à déjeuner pour leur poser des questions et pour voir si mes hypothèses étaient vraies. Puis je suis allé en boutique avec Lucas et j'ai pris des personnes qui ressemblaient à mes hypothèses pour leur parler autour d'une bière, mais sans leur dire forcément de quoi il s'agissait, en leur demandant si on pouvait enregistrer. Et ce que j'ai remarqué, c'est que, par exemple, je te donne une hypothèse de base, c'était qu'il y a une différence entre les étudiants. Il y a les étudiants qui sont littéraires, économiques, Sciences Po, et il y a les étudiants qui sont ingénieurs, informatiques, etc. Et je me suis dit, ceux qui sont du côté littéraire, c'est ceux qui vont se soucier de comment ils s'habillent. Et ceux qui sont ingénieurs, pas du tout. En fait, non, c'est pas du tout ça la différence. La différence, c'est entre les étudiants qui se dirigent vers un emploi où ils vont directement affaire à des clients, donc ils vont être là et ils vont avoir des relations, et entre ceux qui vont être cachés dans leur bureau à ne jamais voir personne d'autre que leurs équipes. Donc les ingénieurs peuvent très bien s'intéresser à la mode, par besoin. Et ce qui faisait venir le plus de personnes chez nous, c'était le costume. Les personnes qui s'intéressent à la mode pour la première fois, qui sont obligées, s'y intéressent en faisant des recherches sur le costume. Donc, ce que j'ai fait avec le rédacteur en chef, je me suis posé, on a créé un petit PDF, la checklist du premier vrai costume, vrai en majuscule, parce qu'à chaque fois que je voyais des clients et je voyais des lecteurs qui me disaient qu'ils avaient envie d'acheter un costume, ils me parlaient toujours de vrai costume. Moi, je leur disais, mais tu peux aller chez Zara, tu peux aller chez Celio. Ils me disaient, non, je veux un vrai costume. Donc, vraiment bien faire attention au verbatim, j'ai utilisé ça. Et j'ai créé un guide autour de ça en donnant les 13 marques. En fait, un mec qui va rentrer pour la première fois en stage, en cabinet ou autre, il va être confronté pour la première fois à des personnes qui ont plus d'argent que lui, qui sont plus haut placées que lui, et qu'il va les regarder, il va se dire « Putain, ils sont bien mieux habillés que moi, et moi je me sens pas bien dans ma peau. » Et le seul moyen qu'il voit pour rapidement changer ça, c'était « Il va falloir que je m'habille un peu mieux. » Il est donc décidé à claquer sa première prime ou ses premiers salaires dans un costume. À mettre 500-700 balles dans un costume, ce qui est énorme pour lui qui s'habillait avant chez H&M ou autre. Donc il est là, il fait attention, il fait des recherches, il se dit « j'ai pas envie d'aller au printemps ou aux Galeries Lafayette parce que j'ai payé la marque. Si j'achète un costume, j'ai envie que les gens le remarquent, mais en même temps, il faut qu'il soit assez sobre parce que je vais pas tout à fait assumer, c'est quand même pour le milieu du travail. Mais à côté, j'ai aussi envie de pouvoir le mettre cet été pour le mariage de ma cousine parce que j'ai pas envie de m'acheter plusieurs costumes. » Donc il y a toutes ces problématiques-là. Et je les ai toutes utilisées dans une publicité et dans un petit guide PDF de quelques pages. Ça fait... Ça a coupé, ça a divisé le coût d'acquisition par 12.
Ok. Tu as parlé tout à l'heure du coup d'avoir fait ces différents profils, mais pour toi, c'était cette promesse-là du costume qui parlait à tous les profils, ou est-ce que tu pars du principe que différents profils égale différents lead magnet?
Exactement, ça égale différents lead magnet, mais le truc, c'est que... Quand je suis arrivé, t'avais un compte Facebook normal où t'avais des publicités qui étaient un peu banales, mais ce que les gens qui n'ont pas fait de copywriting ne voient pas forcément. Et il y avait un peu une envie de, par la technique, d'améliorer les résultats. Donc de se dire, on va A/B tester des trucs, on va faire du ciblage plus précis, enfin on va faire des trucs comme ça. Je disais non, on va créer une offre qui est bien meilleure, une publicité qui est bien meilleure, et on va enlever toutes les conneries techniques. On pourra y revenir après pour optimiser des choses qui marchent. On va pas optimiser des trucs qui marchent pas, ça n'a aucun intérêt. Donc j'ai tout viré, j'ai juste créé une campagne avec cette publicité-là. Et je me disais, ok, ça c'est un lead magnet qui va fonctionner sur le profil étudiant jeune actif, et après on va faire un lead magnet pour les vieux, enfin le père de famille qui s'est laissé un peu aller, un pour le vieux beau, etc. Mais j'ai juste mis ça en place, et ça a déjà tout défoncé. Ensuite, j'avais créé un autre lead magnet qui s'appelle le guide des 270 marques préférées de bonne gueule. Donc, peu connues et de bonne qualité, ou un truc comme ça, je ne me souviens plus. Et lui aussi, il avait tout dépoté avec les mêmes prix. Mais le truc, c'est que bonne gueule a toujours pas eu des problèmes de production, mais a toujours peu produit, parce qu'ils sont consciencieux et parce qu'ils ont peur de ne pas toujours tout vendre. Et... ce qui s'est donc passé, c'est qu'on avait beaucoup trop déjà sans ça, on faisait des sold-out. Donc ça servait à rien de faire rentrer 10 fois plus de leads. Ça servait absolument à rien. Ce qui est arrivé, c'est que je me suis retrouvé au chômage technique après ça.
Donc, encore une fois, tu te retrouves dans une situation où la production est limitée. Qu'est-ce que tu fais après ?
Après, je monte. En fait, après, il y a plusieurs entreprises qui m'ont dragué, qui voulaient que je vienne chez eux. Et moi, je me dis non, j'ai pas envie à chaque fois de venir pour un an, mettre un truc en place qui vaut ultra cher et repartir après. Alors pour moi, ce que je mets en place vaut beaucoup plus qu'une année de salaire en CDI. Je mets des grosses machines en place que d'autres peuvent gérer derrière. Donc je me suis dit, non, je ne veux plus faire ça. Donc je me suis dit, ok, tiens, toi, je ne vais pas venir travailler chez toi, je ne vais pas venir travailler chez toi. En revanche, je peux faire du conseil. Et on m'a dit, ok, et très rapidement, j'avais l'auto-entrepreneuriat, les plafonds ne sont pas ultra hauts, donc j'ai explosé ça très rapidement. Et du coup, je me suis retrouvé à créer ma boîte. Et je me suis j'ai vite arrêté le conseil parce que ce que je fais est tellement différent des choses qu'on peut conseiller. Enfin, je peux donner des conseils, mais les gens ne sauront pas forcément les appliquer. Donc, j'ai commencé à faire de la formation. Et aujourd'hui, je forme par exemple en marketing à l'Institut français de la mode. Donc, je donne des cours en école et je donne des formations en entreprise. Je fais des ateliers workshop coaching où on se pose et on démonte un sujet ensemble.
C'est quoi le format d'un atelier ?
Le format d'un atelier, c'est que pendant les 4 premières heures, on va parler de la théorie d'un sujet. Et l'après-midi, on met en place ensemble. Par exemple, toute la matinée, on va parler de la structure d'acquisition Facebook, ce qui n'est pas un des premiers sujets qu'on aborderait. Il y a un sens. Il y a 12 étapes, en fait. J'ai un processus en 12 étapes que j'applique à n'importe quel e-commerce. Et je fais passer les gens par ce processus. Et à chaque fois, il y a la partie théorie du processus et la partie pratique où on met en place ensemble.
Donc 12 étapes, c'est quoi ? C'est 12 jours ?
Non, c'est, euh, ça devrait être beaucoup plus. On le fait à nos tarifs. Le monde de la mode n'a pas beaucoup d'argent. Donc, quand on le fait souvent avec des entreprises qui font 1 million, 2 millions de CA. Donc, on fait ça sur 5 jours, avec la journée qui peut varier entre 1 700, 2 200. Et en fait, on fait selon CA et selon l'impact qu'on pense avoir. Donc, ça peut monter à 3 000 euros la journée.
Et dans ce cas-là, c'est quoi? Toi, tu interviens directement personnellement, tu es tout seul, tu as combien de personnes en face de toi?
En fait, j'ai monté l'entreprise avec Lucas, qui était donc l'ancien rédacteur en chef et l'ancienne image de BG, de Bonne Gueule. Et lui, il intervient chez des clients, moi, j'interviens chez des clients. Et Lucas, il s'est formé auprès de moi pendant qu'on était encore à Bonne Gueule. Comme il faisait les lancements, il avait déjà beaucoup, beaucoup de bases qu'il ne soupçonnait pas forcément. Et on transmet ça comme ça. Mais on a arrêté parce qu'on avait trop de demandes. Parce que ça nous fatiguait aussi de nous déplacer à chaque fois. Maintenant, on est passé sur de la formation en ligne et sur du coaching par téléphone Skype.
Donc t'as laissé tomber ce côté formation en présentiel?
On le fait encore. On le fait encore, mais juste. En fait, aujourd'hui, on ne voulait pas dépendre de ça. On ne voulait pas aller faire une formation parce qu'on avait besoin d'argent. Donc, on a mis toute notre formation en ligne en place, qui tourne en arrière-plan, ce qui nous fait gagner de l'argent. Et à côté, quand un projet nous intéresse vraiment, on fait des journées en présentiel. Mais si on le fait, c'est parce que ça nous fait vraiment kiffer et parce qu'on croit vraiment à fond au produit.
C'est intéressant parce que quand tu as une certaine compétence qui peut aider une certaine personne, tu as toujours différentes manières de la livrer, allant de la formation en ligne au coaching, une autre option. Et je serais intéressé de savoir ce que toi, tu en as pensé et pourquoi est-ce que tu n'as pas été là-dedans. C'est de faire essentiellement un modèle d'agence où les gens viennent te voir et tu fais les choses pour eux et voilà, et tu vends un certain service.
Ouais, j'aime pas du tout être prestataire. Ça me, je, pour avoir été un tout petit peu dans ce cas-là, je trouve que ça me met toujours dans une position un peu. En fait, le problème avec nos compétences, et la compétence que toi aussi tu as, c'est que des compétences que les personnes ne connaissent pas et donc ils ne savent pas qu'ils en ont besoin. Donc c'est très difficile de les vendre en prestation. Il faut leur montrer ce que c'est, il faut leur apprendre ce que c'est avant qu'ils remarquent ce que ça peut apporter et avant qu'ils comprennent à quel point ça vaut cher. Donc à chaque fois que j'ai fait de la prestation, et j'en ai fait peu, hein, c'est peut-être des idées, peut-être que je suis juste tombé sur des connards qui n'avaient pas envie de comprendre, donc j'ai mal expliqué. Mais bref, à chaque fois c'était ouais, tu peux gérer mes Facebook Ads. J'ai dit non, je fais beaucoup plus que gérer des Facebook Ads. Non, mais écris-moi des trucs, écris-moi de la copie là. Oui, le copywriting, je connais et tout, on en entend parler aujourd'hui avec toutes les startups. C'est bon, fais-moi des trucs un peu marrants, un peu cool, qui accrochent et je vais te payer au mot. Je dis bah non, non, je vais pas faire ça. C'est l'apport que je peux avoir et l'impact sur ton projet, ça sera bien plus important que les quelques centimes que tu vas me payer par caractère. Ça n'a pas de sens.
Et du coup, c'est quoi la. À ton analyse, c'est quoi sur la différence entre, par exemple, si tu veux faire de la formation en présentiel, ça reste quand même des tarifs qui sont conséquents. Il faut que la personne soit vraiment convaincue de ce que ça va lui apporter. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise va être plus à même de partir sur cette formation-là en présentiel plutôt que sur la partie prestation, à ton avis?
Je pense que c'est le positionnement. Le positionnement du non, mais moi je fais rien à ta place. Si tu veux que je t'explique tous mes succès dans l'e-commerce, si tu veux que je t'explique comment j'ai fait, si tu veux voir mes stratégies, il faut que je te forme. Parce que l'architecte ne pose pas les briques. Et à chaque fois, ça retourne. Ah ouais, ah ok, ah oui, pardon, et tout. Ok, on va voir alors si on ne peut pas se former. Enfin, ça impose. Quelqu'un qui te dit non, je ne peux pas travailler avec toi, ça impose toujours un peu le respect. Ça marche tout le temps. Et ouais, c'est ce positionnement. Et le truc aussi, c'est que c'est les marques de mode qui nous ont approchés, qui connaissent Lucas, qui connaissent souvent Jacques et Déméter, et qui connaissent en fait la plupart des entreprises avec lesquelles on a travaillé. Et quand on leur dit, nous, ce qu'on apprend aux e-commerce, c'est gagner plus d'argent en investissant le moins possible, ça intéresse. Parce que personne n'ose faire des promesses comme ça. Une agence ne te fait jamais des promesses comme ça. Une agence, elle va améliorer ton image de marque, elle va te donner de la notoriété, elle va te augmenter ton reach. Mais à aucun moment, elle parle argent. Ça fait peur de parler argent, surtout en France encore.
Donc du coup, ton pitch que tu fais aujourd'hui, il est basé sur quoi? C'est quoi ta différenciation sur le côté formation en e-commerce? Où est-ce que tu vois que les expériences dont tu as parlé tout à l'heure se cristallisent?
En fait, sur là où c'est très différent de ce qui se fait, c'est que presque tous les acteurs du marché t'apprennent à lancer un e-commerce. Ils passent leur temps à lancer des e-commerce. Donc ils peuvent tout te raconter sur les derniers outils à la mode, sur le nouveau format publicitaire de LinkedIn, les techniques de growth hacking et tout. Mais dès que tu leur dis, ok, mais moi là, je fais comment pour augmenter mes ventes? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est augmenter mes ventes. C'est cool d'avoir un beau Shopify ou autre, mais je veux augmenter mes ventes. Là, les conseils deviennent plus vagues, plus théoriques. On va être sur du « ouais, mets des smileys dans tes objets de mail, il y aura plus de taux d'ouverture » ou « essaye de faire des A/B tests un peu sur tes pages de vente ». Enfin, on va être dans des trucs comme ça. Parce que ces personnes-là n'ont jamais réussi en e-commerce. Ce n'est pas leur métier. Leur métier, c'est de lancer des e-commerce, qui est un métier à part entière. Mais les personnes qui réussissent en e-commerce, eh bien, elles sont trop occupées à réussir en e-commerce. Donc, elles ne sont pas là pour te former. Et nous, on a réussi en e-commerce. Dans des trucs chiants, avec des conditions souvent qui étaient vraiment pas bonnes pour quelconque réussite, donc sans argent, sans rien, juste un peu à la sueur de notre front, et on peut enseigner tout ça. Et on peut montrer, à la place de t'expliquer comment utiliser un CRM et comment gérer ta délivrabilité et des trucs comme ça, à la place de t'expliquer comment ce qui est bien avec le marteau et ce que tu pourrais théoriquement faire, on te montre comment l'utiliser pour vraiment construire quelque chose. Donc on ne te dit pas « envoie 3 mails de lancement », on te dit « voilà ce que tu écris dans ce mail-là, voilà ce que tu écris là, et voilà ce qui est écrit là ». Et voilà un peu tout le raisonnement qui est derrière. On ne te dit pas « vas-y, fais du retargeting panier ». On te dit « voilà, tu fais du retargeting panier et tu dis ça, ça, ça et ça, dans ta situation précise ». Ce qui est quand même très différent. Ce qui demande de... Et c'est là où tu vas avoir un autre problème. Tu vas avoir le problème que tu es trop proche du résultat et qu'on va t'imputer le résultat. Donc si tu es prestataire et que tu fais ça et tu dis je vais te faire un lancement et ça va être génial, tu ne contrôles pas la qualité des leads. Tu ne contrôles pas la qualité du produit. Tu ne contrôles pas le fait que le produit plaise à l'audience ou non. Donc le match avec l'audience, c'est pas toi qui l'as contrôlé. Tu connais pas l'audience de ton client. Tu peux pas connaître 1000 audiences différentes. C'est ultra compliqué. Ça demande vraiment beaucoup de travail à chaque fois de connaître l'audience. Donc, si tu fais de la prestation de ce type-là où tu promets de la vente, tu ne peux pas l'assurer. Donc, la formation, c'était aussi un moyen de se détacher de tout ça, de leur dire, les gars, il y a ça qu'on ne connaît pas, il y a ça qu'on ne sait pas, il y a ça qu'on ne sait pas. Normalement, ça devrait fonctionner comme ça. Mais il y a toutes ces autres choses qui sont des inconnues. Donc, on va vous former, et c'est à vous de voir, et c'est à vous de découvrir toutes ces choses qui sont des inconnues. On va vous apprendre à les découvrir, pas apprendre à mieux connaître votre audience, à les comprendre et à sortir des produits qui vont leur plaire. Mais là, si tu me donnes un quelconque produit, tu me dis de le lancer, j'ai pas le contrôle sur toute l'équation, donc je peux rien t'assurer. Et donc c'est pour ça aussi que c'est beaucoup plus intéressant pour nous de faire de la formation. Parce que bien sûr, nos élèves ont de très beaux résultats, mais il y en a certains qui ont une base, par exemple, on en avait un qui avait une base de 10 000 clients, mais ce qu'on savait pas, c'est que ces 10 000 clients, depuis 10 ans, étaient nourris à la promo et à la solde de tout va, et que les seules personnes qu'il attirait, c'était des personnes qui étaient des price buyers, donc des personnes qui veulent du bon plan. Et donc, s'il vient nous voir et qu'il nous dit « j'ai envie de changer mon image de marque, j'ai envie de vendre plus cher, j'en ai marre de faire des soldes », et qu'on lui dit « très bien, on va essayer de faire un lancement qui va être basé un peu sur toute l'histoire des produits, sur tous les bénéfices produits, en essayant de parler du moins possible du prix », et sans faire de réduction, eh bien ça va beaucoup moins bien marcher, ça va pas marcher sur une base de 10 000 clients qui a été nourrie à la promotion. Après, ils pourraient dire « ah ouais, ça marche pas ». Non, c'est juste que ça marche pas sur tes clients. Ce qui veut dire qu'il y a un gros travail à faire pour les rééduquer. Et aussi pour que les prochains leads que tu fasses rentrer ne soient pas les mêmes leads et qu'ils ne rentrent pas par cet argument-là ou par cet angle-là. Donc, tu as toujours toutes ces choses-là qu'il faut prendre en compte. Donc, d'où la formation.
Mmh. Ouais, je vois assez bien. Du coup, tu pars sur vraiment... les aspects que tu peux contrôler, les promesses que tu peux faire et qui ne sont pas au final applicables partout de la manière pour tout le monde. C'est-à-dire que, surtout dans ton domaine, c'est-à-dire que si le produit que tu vends, il ne plaît pas, les meilleures techniques de copywriting du monde ne te sauvent pas. Et donc, tu peux toujours promettre de « tiens, je vais te montrer les techniques et je vais te montrer où elles marchent, je vais te montrer les études de cas et je vais te montrer pourquoi est-ce que ça a fonctionné à tel endroit et comment est-ce que toi, tu peux l'appliquer dans ton domaine. » Après, c'est une autre chose de dire « Ok, je vais le faire pour toi et tu vas doubler tes ventes. »
Le résultat, tu peux jamais l'assurer. Mais à côté, ça m'est déjà arrivé plein de fois et ça m'arrive, heureusement, ça nous arrive beaucoup plus souvent dans ce sens-là. C'est que, par exemple, là, il y a 2 semaines, ah non, il y a déjà un mois, on a donné une formation, On donne jamais, on donne pas une formation Facebook Ads, mais on explique comment vraiment utiliser Facebook et comment créer les meilleures publicités possibles et comment créer des campagnes que tu peux scaler. Donc des campagnes, quand tu vois qu'elles marchent, si tu vois qu'elles marchent, tu peux te dire, ok, je vais investir plus dedans et les résultats restent à peu près les mêmes parce que ça va jamais tout à fait pareil. Je pense que j'apprends rien à personne. Hein. Donc, je les ai pris pendant une journée pour leur expliquer tout le fonctionnement, toutes les choses qu'on ne dit pas forcément sur Facebook, toutes les choses. En fait, je leur ai expliqué que la technique aujourd'hui, à peu près tout le monde peut la maîtriser parce que Facebook fait tout pour rendre son outil publicitaire accessible à tout le monde, mais que là où on va vraiment faire la différence aujourd'hui, c'est la qualité des publicités. Et c'est ça qui va faire énormément. J'aurais appris à créer des belles publicités et je leur ai dit, je pense, j'assure rien, je pense qu'on peut attendre ce coup-là par achat, qui leur convenait tout à fait et c'est ce qu'elles voulaient faire. On a mis le truc en place et à la place d'avoir un ROAS, donc un retour sur investissement publicitaire de 5 que je leur avais prédit, elles ont fait un retour sur ad spend moyen de 9. Et je me dis, waouh! Et là, c'est encore une fois, je ne savais pas à quel point, dans ce cas-là, le produit plaisait à l'audience déjà, de base. Et à quel point on pouvait aller loin. Mais je préfère toujours être du côté toujours la jouer safe. Tu prends ce que tu penses et tu divises le truc par deux.
Ouais. Robin, il y a trois questions que je pose à tout le monde avant de terminer ces interviews. Et la première question, c'est est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent?
Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Est-ce que c'est un livre sur un sujet particulier qui t'intéresse ou qui intéresse ton audience?
Pas forcément, tu peux parler des livres qui sont pertinents par rapport à ton domaine ou même de tes intérêts personnels. Tu peux en citer plusieurs aussi si tu veux, ça me dérange pas du tout.
Ok, je vais en citer plusieurs. Je vais citer premièrement Kick-Ass, non, Kick-Ass Copywriting Secrets by Marketing Rebel de John Carlton.
Carlton.
Incroyable à relire et à relire et à lire. Je suis dans la team depuis peu, je suis dans la team où je lis pas plein de nouveaux livres, mais j'essaye de relire les livres qui m'ont vraiment plu parce que j'apprends beaucoup plus à chaque fois. Donc ça, à côté dans l'entrepreneuriat, parce que c'est impossible d'avancer sans faire face à ses peurs et sans dépasser un peu des choses qu'on a à l'intérieur de soi et qui nous bloquent. Cybernetics.
De Maxwell.
De Maxwell Maltz, Dr. Maxwell Maltz, Psycho-Cybernetics, très très bon. Et finalement, ça c'est un programme audio qui coûtait beaucoup plus cher à la base, mais que sur Audible tu peux choper avec un crédit. C'est Piranha Marketing de Joe Polish.
OK.
Ça c'est
C'est le
vraiment
seul
la petite perle.
que j'ai pas suivi, tu peux en parler un petit peu?
Joe Polish?
De Piranha Marketing en particulier. Donc Joe
Ah,
Polish, c'est un
Piranha
mec qui
Marketing,
a fait sa première fortune dans, c'est quoi, il nettoie des tapis ou un truc comme ça, c'est ça?
ouais, c'est ça. Il
Dans une
nettoyait des
entreprise
tapis.
de nettoyage de tapis, mais vraiment en marketing direct, en mailing papier, et qui est un expert connu un petit peu à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il était vraiment là dès le début du web.
Exactement, ouais.
Mais du coup, celui-là, je ne suis pas familier avec ce programme en particulier, je serais intéressé d'avoir ton retour dessus.
Il est incroyable. En fait, le programme est incroyable puisque c'est une discussion entre lui et son collaborateur. Et tout ce qu'il fait, c'est prendre toutes les choses qu'il met en place chez un carpet cleaner, donc chez un nettoyeur de tapis. Et genre, il parle aussi bien de la newsletter, il parle aussi bien des lancements que des promotions, que des referrals. Il fait vraiment tout le business appliqué à ça. Pendant 8 ou 12 heures, je ne me souviens plus.
C'est
Et
8, je viens de l'ouvrir
c'est
là.
8 heures? 8,
Ouais.
ouais, voilà.
Ouais, 8 heures.
Voilà, pendant 8 heures. Et c'est incroyable parce qu'il va vraiment dans des. Il applique vraiment un cas concret et il explique tout ce qu'il fait concrètement. Et ça s'applique à n'importe quel business. Et au début, tu te dis, wow, ça a été enregistré quand? Il parle de laisser d'appeler des gens et de laisser des messages vocaux et des trucs comme ça. Mais à la fin, il parle de webinaire. Donc il dit, ouais, si je parle du webinaire maintenant, c'est que je considère que tout le reste est encore plus efficace dans certaines industries que le webinaire, tu vois, et que l'Internet. Donc c'est fabuleux.
Ouais, c'est marrant de voir. Notamment, je trouve que c'est assez intéressant d'un point de vue de la créativité. Parce que si tu regardes que des gens qui font exactement la même chose que toi, tu retrouves un peu dans les mêmes recettes que tout le monde fait, que tout le monde se copie. Mais si tu regardes un mec qui va vendre des nettoyages de tapis, t'es obligé de... La seule manière dont tu peux tirer quelque chose de ce qu'il est en train de te raconter, c'est de réfléchir en fait aux éléments fondamentaux de ce qu'il est en train de te dire, puisque potentiellement, tu ne vas pas forcément laisser des messages vocaux. Mais OK, qu'est-ce que le mec accomplit en faisant des messages vocaux? Et qu'est-ce que ça veut dire dans mon business? Et qu'est-ce que je pourrais trouver comme moyen de faire le même résultat avec les moyens qui sont efficaces dans mon industrie?
Bah, exactement. En fait, s'il y a un conseil que je donne, c'est ne va jamais apprendre comment faire du marketing sur LinkedIn par un mec qui a étudié uniquement le marketing sur LinkedIn. En fait, aujourd'hui, tout le monde se forme avec des livres ou des supports qui sont des recrachés de trucs fondamentaux. Et t'es beaucoup mieux armé en lisant les fondamentaux, en prenant les principes, en attaquant un nouveau sujet et en les utilisant. Enfin, en te disant, ok, bah, je vais te donner un exemple. Chez Bonnegueule, j'avais dit que j'avais fait du Facebook Ads avant. J'avais ouvert une fois l'outil publicitaire, j'avais jamais fait publicité Facebook. Jamais. Mais je savais ce qu'était une bonne publicité, je savais comment on écrivait une bonne publicité, je savais tout ça. Et je me disais, Facebook, c'est rien plus qu'un média, c'est rien plus qu'une plateforme que j'ai payée pour qu'elle montre mes messages à ses utilisateurs. C'est comme ça qu'il faut approcher le truc. Il ne faut pas approcher chaque truc comme une science totalement à part. Et c'est pour ça, il faut lire les classiques, quoi. Sinon on est à...
C'est pour ça que les trois que tu cites sont des grands classiques. Bon, Carlton, c'est absolument culte. Psycho-Cybernetic, c'est vraiment intéressant. Il y a un truc un peu perché dedans,
ouais,
où je ne suis pas vraiment à fond. En fait, le principal truc qui m'a amené dans Psycho-Cybernetic, c'est que c'est un truc culte chez Dan Kennedy, qui est pour le coup aussi un marketeur direct à l'ancienne, assez culte. Et du coup, lui, il ne jure que par ça. Donc, je me dis, il faut que je regarde. Et il y a beaucoup de choses qui se rapprochent un peu du côté affirmation. Mais clairement, c'est un modèle qui est intéressant. Et encore une fois, j'aime bien le côté de trouver un truc qui est un peu plus ancien. Parce que comme ça ne s'applique pas directement ou ce n'est pas exactement la manière dont toi, tu le représentais, t'as ce recul suffisant pour dire, OK, c'est quoi les fondamentaux ici et qu'est-ce que moi j'en tire dans ma situation, plutôt qu'avoir une personne qui te dit exactement, OK, dans mon cas, tu vois, ça serait YouTube. Dans le cas sur YouTube, OK, comment tu mets tes tags sur ta chaîne, etc., qui est un niveau beaucoup trop tactique d'information qui, au final, te permettra jamais d'avoir une différence et d'avoir un avantage.
Ouais, exactement. Exactement.
La deuxième question que je pose à tout le monde, c'est si tu pouvais revenir en arrière et parler à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que ce gars-là aurait besoin d'entendre ?
Arrête de réinventer la roue tout le temps. Arrête de réinventer la roue. Pour tout te dire, il y a un truc que je fais. C'est... Je pense à une idée de business. Enfin, même dans la formation, je crée le truc. Je le fais, j'écris la page de vente. Et... à 20% de la fin, j'arrête. Et je me dis, ouais, non, je vais pas faire ça, je vais plutôt aller dans l'autre sens. Et à chaque fois, je fais un tour complet, genre je fais 2-3 projets, et à la fin, je retombe toujours sur celui du départ, qui était souvent celui qui était le plus simple, qui était le plus direct. Et c'est très fatigant. C'est très fatigant, et j'ai l'impression de travailler, mais à aucun moment, j'ai les retours sur ce travail-là. Donc heureusement que tout tourne bien à côté, mais ça c'est quelque chose qui peut complètement te détruire. C'est, je commence un projet, je me dis ok, je vais commencer à faire, à organiser des voyages où on va faire des workshops pendant 3 jours à la campagne. Je le fais un peu, je me dis ouais non, en fait j'ai pas trop envie de faire ça, je pense qu'il vaut mieux faire ça. Et du coup tu changes et tu finis rien, donc t'as aucun retour sur rien, pour au final te reprendre le premier truc, le finir et avoir des retours. Donc t'as fait tout un cercle pour rien du tout. Et le premier truc, c'est souvent un truc que quelqu'un d'autre a déjà fait, que quelqu'un d'autre a déjà découvert. Et tu te dis, bah, si les gens font comme ça, ou si le mec qui a déjà très bien réussi et que je respecte a fait ça, c'est qu'il y a peut-être une raison.
Donc dans ce cas-là, c'est aussi étudier un peu l'historique de ton métier. Les gens, dans le domaine du copywriting, ont tous ce truc d'aller étudier jusqu'à Claude Hopkins, etc. Est-ce que beaucoup de gens dans le milieu du web n'ont pas, parce qu'ils considèrent que leur métier, il a commencé il y a 5 ans? Et là, c'est dommage, tu vois. Mais même temps, tu as un truc comme YouTube, etc. Tu dis, OK, YouTube, c'est tout nouveau. Les règles ont changé. Les formats qui marchent sur YouTube, ils sont directement inspirés de la télé. Enfin, moi, j'ai bossé un tout petit peu dans la télé-réalité. Et la manière dont ces gens-là réfléchissent en termes de format, en termes de construction, c'est vraiment super intéressant. C'est-à-dire que toutes les émissions les plus débiles que tu as déjà vues à la télé, il y a des gens super intelligents qui les font derrière. Peut-être pas les candidats, quoique il y en a qui jouent la comédie, tu vois, mais les gens qui structurent les émissions pour créer un drama et une histoire intéressante, c'est super cool. Et donc, du coup, tu vas réfléchir un petit peu l'histoire de la télé-réalité, tu regardes un petit peu comment les émissions fonctionnent, tu vois, genre comment est-ce que les dynamiques sont mises en place, comment est-ce que les personnes sont choisies, comment est-ce qu'il y a une histoire récurrente qui est construite, tu vas aller regarder un petit peu. Même, tu vois, genre les trucs écrits, les romans, les machins. Tout ça, tu t'étudies comment se structure ce contenu. Le podcast, c'est la radio, tu vois, tous ces
ouais.
trucs-là, c'est beaucoup moins différent que ce que les gens pensent. Tu vois, tous les trucs qui sont différents, c'est les trucs de surface qui deviennent de plus en plus faciles. Honnêtement, tout l'aspect technique est de plus en plus simple.
Exactement. C'est toujours, c'est toujours le squelette. Si tu prends la structure narrative qui des blockbusters, c'est toujours la même.
Ouais.
Marvel étant le meilleur exemple, toujours la même chose. Les Disney... toujours la même chose, exactement la même que Marvel. Ça n'a pas changé et ça ne changera jamais. À chaque fois, c'est des petites technologies que tu vas rajouter par-dessus, genre des meilleures animations, des sujets un tout petit peu différents parce qu'on a changé d'époque, mais la structure, au final, reste toujours la même. Et il y a un autre truc, et ça, c'est presque plus important que ce que je disais tout à l'heure sur un conseil que je donnerais à moi-même, donne aux gens ce qu'ils veulent. Par exemple, je te parlais de la formation, il y a plein de gens qui ne veulent pas se former. Donc vendre de la formation, juste théorique, ça ne marche pas. Et si tu as besoin de convaincre la personne qu'elle a besoin de ton truc, tu as déjà perdu quoi. Tu n'as pas perdu, mais tu vas faire un métier qui est beaucoup plus difficile et beaucoup moins rentable et beaucoup plus frustrant. Et en fait, avec mon ego croissant parce que j'ai réussi 2-3 trucs, j'ai commencé à dire non. Maintenant, j'ai envie que les gens se forment, j'ai envie que mes clients se forment, et j'ai envie, là maintenant, je vais leur donner des cours et je vais les tabasser, et je suis content si après une journée avec moi, ils vont faire la gueule, parce que ça veut dire qu'ils ont compris que c'est difficile la vie un peu, que c'est difficile le métier qu'on fait. Mais convaincre des personnes de signer ça, c'est ultra difficile. J'ai la malchance que j'y arrive, parce que cette malchance me fait croire que je suis ou que j'étais sur le bon chemin par moment. Je me dis, ça marche, regarde, il y a des gens qui achètent et je gagne très bien ma vie avec ça. Mais alors que je pourrais faire quelque chose de beaucoup plus efficace en faisant ce que je faisais avec Jacques Hénéméter. Je pense souvent à Jacques Hénéméter en me disant, mais à l'époque, tu t'en foutais, tu donnais vraiment juste aux gens ce qu'ils voulaient. Tu vendais un produit qu'ils voulaient et pas un produit que toi, tu avais envie de vendre.
Donc, ce serait quoi l'alternative pour toi de quel est le produit que les gens veulent du coup? Parce qu'on a déjà éliminé tout à l'heure l'histoire de faire de la prestation. Qu'est-ce que les gens veulent si ce n'est pas se former?
Ils veulent des recettes toutes faites pour des problèmes qu'ils peuvent appliquer pour avoir des résultats tout de suite chez eux. Ils ne veulent pas apprendre la théorie derrière ci, derrière ça. Il y en a, mais ce n'est pas la majorité. Ils veulent pas comprendre tout l'histoire du copywriting et de la psychologie, de la persuasion et tout ça. Non, ils veulent seulement voir comment comment quelques trucs là-dedans peuvent s'impliquer maintenant, aujourd'hui, sur leur page de vente pour gagner un peu plus d'argent. Ou ils veulent juste savoir comment augmenter un tout petit peu le CTR de leur publicité. C'est ça qu'ils veulent, de prime abord. Ensuite, si tu leur montres comment faire ça, ils vont ouvrir leurs oreilles et écouter tout le reste. Mais tu peux pas les accrocher avec ça. Tu peux pas et tu pourras jamais. En fait, c'est juste accepter la nature de l'être humain.
T'es en train de dire, et c'est aussi moi un truc que j'ai remarqué, c'est que pour pouvoir vendre ce que t'as besoin de vendre, t'as un certain temps d'éducation de la personne qui arrive avec un besoin qu'au départ, t'es pas forcément capable de délivrer.
Voilà.
Alors, c'est-à-dire qu'ils veulent un truc qui sera de la poudre de perlimpinpin magique, qui ne demande pas de travail et pas vraiment de compréhension et que toi, tu vas pouvoir implémenter rapidement, sachant que si tu devais implémenter, il y aurait tous les problèmes qu'on a parlé tout à l'heure au niveau de la prestation qui ne sont pas insurmontables, mais qui demandent forcément du temps en matière de recherche, etc. Et donc, du coup, tu dois amener les gens à voir. Mais je pense notamment sur le copywriting que c'est particulièrement intéressant. C'est une compétence qui est plus ou moins visible. C'est-à-dire que quand c'est bien fait et que tes clients... ça te saute pas aux yeux que les gens sont en train de faire du copywriting et que c'est bien. C'est un truc qui est un peu invisible, contrairement peut-être au design, tu vois. Ou si y a un beau design, tu vois que c'est un beau design. Sur le copywriting, si c'est super bien fait, c'est juste une page qui est cool et c'est super intéressant à lire. Et à la fin, tu dis « Ah ouais, tiens, cool, c'est bien, tu vois. » Et tu n'y penses pas forcément. Ce qui fait que le fait de te dire « Ok, tu vois ce truc-là qui a l'air super naturel, super simple. » En fait, derrière, il faut que tu ailles lire un mec qui est mort en 1982 et qui te parlait de comment vendre des tapis, tu vois. Mais en fait, peut-être que c'est là que tu as besoin d'aller pour pouvoir le retrouver.
Exactement. Mais tu vois, un exemple aussi, c'est j'ai regardé le documentaire il n'y a pas longtemps, de Fyre Festival. Un festival qui tombe complètement à l'eau et qui marche pas, et bah tu remarques parce qu'il a pas marché. Mais un festival qui se déroule comme prévu, qui est exécuté à la perfection, bah tu remarques pas qu'il est parfait. Parce que tu te dis c'est normal. C'est un peu la même chose. Comme du beau design. Le beau design tu le remarques pas, mais du design moche tu te dis ah oui c'est moche. Ah ouais, c'est toute la problématique.
Et l'autre exemple, j'ai vu pas mal de vidéos YouTube derrière récemment, c'est les effets spéciaux. En fait, tout le monde dit les effets spéciaux, ouais, c'est moche, ça voit, c'est mal fait, etc. Et en fait, tu t'aperçois que dans plein de films, et genre, il y a des plans où, tu vois, où c'est genre, t'as les personnages qui sont en train de marcher dans un super paysage, c'est de la neige. Et en fait, c'est un sale truc qu'ils ont fermé. Derrière, il y avait une autoroute, et en fait, ils ont retiré l'autoroute, ils ont mis une putain de montagne avec de la neige et tout. Et en fait, c'est pareil, tu les remarques que quand ils sont mal faits. Et du coup, les gens sont injustement biaisés contre ce truc-là, puisque si c'est bien fait, tu le vois pas. Si c'est mal fait, tu le vois directement et tu t'en souviens.
Ouais, mais oui, c'est. Mais le Loup de Wall Street, ils ont fait tout un truc dessus aussi où tu vois qu'il y a plein de trucs qui sont faux. Mais ouais, c'est. Les gens remarquent juste quand tu échoues dans certains métiers.
Ouais. La troisième et dernière question que je pose pour terminer l'épisode, c'est est-ce qu'il y a un proverbe ou une citation qui te vient souvent à l'esprit?
Oui. Il y en a deux. Il y en a une, c'est Zig Ziglar. You can have anything you want in life if you give other people what they want.
Donc, tu peux obtenir tout ce que tu veux dans la vie tant que tu donnes aux autres ce qu'ils veulent.
C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Et je devrais y penser encore plus souvent. Et une autre, c'est de Earl Nightingale. Et je ne me souviens pas tout à fait. C'est l'idée de la citation, c'est ne pense jamais à combien de temps un projet va prendre, parce que ce temps-là, de toute manière, il va passer.
Ok.
On sait même si ça prend 6 mois d'avoir un certain résultat, ces 6 mois de toute manière passent, donc autant faire le truc pendant 6 mois pour avoir le résultat à la fin. Parce qu'on a beaucoup plus souvent le truc de putain, si je m'étais mis il y a un an quand j'ai pensé la première fois, bah j'en serais là aujourd'hui. Surtout en entrepreneuriat, je pense. Si j'avais lancé ma chaîne YouTube il y a un an, j'en serais là aujourd'hui.
Je me souviens à un email d'un gars une fois qui voulait acheter une formation, il disait ah tiens, ok. Avant de rejoindre la formation, je voudrais être sûr que mon idée va marcher parce que j'ai pas envie de perdre mon temps. Tu vois. Si genre, ça va prendre 3 mois de tester cette idée, etc., si ça se trouve, ça va pas marcher. Et le truc, c'est qu'est-ce que tu vas faire d'autre avec ton temps, tu vois. C'est quoi l'alternative de si à la place de ton temps, tu vas regarder Netflix, à la limite, tu passes 3 mois à faire un truc, ça marche pas, tu auras appris des trucs et tu te seras expérimenté un peu sur un projet. Et la question, c'est. Ouais, c'est quoi l'alternative, quoi. À la limite, si l'alternative, c'est que le mec, il est avocat d'affaires, justement, et il facture à fond à chaque heure de son temps, je comprends qu'il n'a pas envie de divertir de ce temps-là important de travail pour aller faire, je sais pas, des vidéos sur YouTube. Mais y a toujours une question de... ça va sans doute prendre plus longtemps que prévu, mais à la limite, c'est quoi ton alternative? Ça se trouve, c'est ta meilleure alternative. Moi, j'y pense souvent du fait que si j'avais été réaliste quand j'avais commencé... je pense que je ne me serais pas lancé, tu vois. Si je m'étais dit, ok, ça va me prendre tant de temps avant de commencer à gagner de l'argent, ça va me prendre tant de temps avant d'arriver à tel niveau, j'avais toujours l'impression que d'ici 3 à 6 mois, j'aurais explosé. Et au final, ça a pris un peu plus longtemps que ce que j'avais prédit. Mais c'était quoi mon alternative, tu vois. C'était pas comme si j'avais un chemin raccourci que je ne prenais pas en passant par là.
Ouais, mais j'y pensais hier en parlant... t'as plein de personnes, et je pense qu'on est tous par moment, qui, avant de commencer un projet, anticipent tous les problèmes qu'ils vont avoir. Et si tu fais ça, bah tu avances jamais. Mais en revanche, si tu prends un problème à la fois, et que tu regardes après tous les problèmes que t'as résolus, tu te dis, ouais, si j'avais su tout ça avant de me lancer, bah j'aurais jamais fait. Et je pense que c'est ça. J'ai remarqué chez les entrepreneurs, parce que j'ai travaillé beaucoup dans la start-up, c'est un milieu que j'aime vraiment pas du tout, mais j'ai remarqué que ceux qui réussissaient, c'est souvent ceux qui sont un peu simplets de prime abord. Parce qu'ils réfléchissent pas à tout ce qui pourrait ne pas marcher ou tout ce qui pourrait marcher. Ils foncent sans réfléchir.
Ouais. J'ai aussi rencontré un certain nombre de personnes qui étaient comme ça, qui au final avaient ce côté beaucoup plus pragmatique et beaucoup moins anxieux et neurotique, ce qui est du coup lié au passage à l'action assez clairement, quoi.
Ouais.
Tu questionnes pas ce que tu fais, tu le fais et voilà. Et au final, même si potentiellement tu perds un petit peu à la marge de sophistication dans ta stratégie, en fait, tu gagnes suffisamment en implémentation et en passage à l'action que ça compense carrément la différence, quoi.
Exactement, ouais.
Ouais.
J'essaie d'être de plus en plus comme ça.
Ouais.
Mais c'est difficile, je suis pas comme ça de base.
Ouais.
C'est marrant, je pense que la plupart des personnes qui se forment et qui passent beaucoup de temps à se former et qui pourraient passer à l'action sont justement des personnalités qui se lancent pas trop de base.
Ouais.
On a tous procrastiné en fait par l'apprentissage à un moment. Moi j'ai longtemps procrastiné
Ouais,
par
clairement.
l'apprentissage.
Ouais. Ouais, parce que bah, en fait, c'est toujours. Il n'y a pas que l'apprentissage, mais c'est en fait, tu trouves quelque chose qui te donne la sensation d'être productif et d'avancer, mais sans prendre le risque d'échouer. Un autre truc sur lequel les gens peuvent procrastiner, c'est tu vas passer X temps à créer ton site. Créer le site parfait. Mais le truc, c'est que tu n'as aucun trafic, donc tout le monde s'en fout, mais tu vas créer le site parfait. Et tu as l'impression de bosser, tu as l'impression de travailler. Tiens, je travaille sur mon site, j'ai avancé et tout, j'ai fait une nouvelle version. C'est pas le truc le plus important que tu pourrais faire. Et surtout, c'est le truc le plus safe parce qu'au final, ton site, tu vas le montrer à ta maman. Elle va dire, oh, c'est joli, c'est bien ce que tu as fait. Tu vas montrer à ton associé, il va dire, ouais, super, trop bien. Mais il n'y a pas vraiment de risque d'échec, il n'y a pas vraiment de risque de rejet, pas vraiment besoin de te remettre en question. Et donc, c'est une manière facile de. Moi, j'y pense beaucoup ça, à les trucs de. Quels sont les trucs où tu as l'impression d'être productif, mais qui n'apportent pas tant de valeur que ça? C'est possible pour moi, tu vois, genre. Tout ce qui est emailing, communication, etc., tu peux y passer beaucoup de temps et te dire, OK, bon, j'ai fait plein de trucs, mais ça apporte rien aux fondamentaux de ton business, quoi, qui sont au final très simples.
Tu t'imagines pas à quel point dans l'industrie de la mode, c'est que ça. Je vais te
Ouais.
donner deux exemples. Là, je travaille toujours dans le lobby d'un hôtel que j'aime bien, l'Hôtel National des Arts Métiers. On s'était rencontrés la première fois là-bas.
Ouais.
Et j'étais à côté de quatre femmes, deux qui avaient une marque de luxe en Chine et deux autres qui étaient des prestataires, justement. Et elles ont débattu vraiment de 10h à 16h30 du layout d'une newsletter. Pas du layout de toutes les newsletters, mais d'une newsletter. Je trouvais ça incroyable. La dernière fois, j'avais lu un article d'une élève d'une formation sur LinkedIn de Live Mentor et elle expliquait qu'elle a passé 10 mois à écrire les conditions générales de vente de son site et qu'elle était trop contente d'avoir fait ça. C'était une grosse partie du travail. Mais t'as même pas commencé le travail. En fait, les gens procrastinent sur des choses que je m'imagine même pas que tu pouvais procrastiner dessus, quoi. C'est incroyable.
Ouais.
Et je me dis, ok, en fait, j'ai fait beaucoup, beaucoup de chemin parce que la seule procrastination que j'ai, et je pense que c'est la plus difficile, c'est la publicité. C'est d'aller all-in en publicité. Parce que la publicité, elle te met vraiment enfin, face à toutes les choses qui peuvent échouer. Tu prends ton message, tu le montres au monde, et si les gens n'en veulent pas, et ben t'as l'air con, quoi. Et
Ouais.
ça fait peur. Ça fait ultra peur.
Et
Tu
pour le coup,
t'exposes à
ouais.
jugement.
Ouais. T'as un enjeu à la fois financier de ah tiens, ça peut perdre de l'argent, et t'as un enjeu ultra quantitatif. Soit ça a marché, soit ça n'a pas marché. Il n'y a pas trop de gradation entre les deux.
Ouais.
Du coup, tu te mets face au
Mais
truc.
tu sais qui m'a un peu débloqué là-dessus, Franck Kern.
Ouais.
Franck Kern qui t'explique que la publicité, quand tu payes de la publicité, tu payes pour regarder dans une boule magique de voyante. Parce que quand tu mets de l'argent en publicité, bah, tu sais ce qui marche. Enfin, tu sais ce qui marche, tu sais ce qui plaît, tu as de l'information, tu peux savoir ce qui va se passer. C'est incroyable! C'est un outil pour lequel tout le monde aurait tué, enfin tous les publicitaires d'antan auraient tué. Tu peux prendre un message en 15 minutes, tu peux le tester. et voir si des gens achètent ou cliquent dessus. Si on l'utilisait vraiment rationnellement en mettant tous nos peurs, notre ego et tout ça de côté, mais on serait les rois du monde. Mais c'est aussi pour ça qu'il est tellement difficile à utiliser, qu'il fait tellement peur. Et que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'avait pas de problème à faire de la publicité, qui n'avait pas peur.
Ouais. Robin, pour terminer, est-ce que tu peux dire aux auditeurs où est-ce qu'ils peuvent aller pour en apprendre plus sur toi et sur ton travail?
Ils peuvent aller sur allianceparconversation.com, qui est, j'ai pas de site parce que j'ai jamais eu besoin d'avoir un site, qui est la homepage de mon site, et c'est là où je présente le processus en 12 étapes par lequel on passe avec nos clients pour augmenter les ventes de leur e-commerce.
Donc c'est la formation dont on avait parlé tout à l'heure.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment spécialisé sur les beaux produits, sur les produits sur lesquels il y a quelque chose à raconter, surtout les produits qu'on ne s'imagine pas pouvoir vendre en ligne parce qu'ils sont trop compliqués à vendre, mais pour voir un peu comment faire tout ça. C'est pour ça que je suis allé dans le luxe pour m'apprendre à moi-même faire tout ça.
Ça marche.
Voilà.
Merci Robin d'avoir été avec moi et d'avoir partagé ton expérience sur le marketing du luxe. C'est super intéressant.
Merci à toi.
Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. Pour terminer, deux petites choses. Premièrement, si vous appréciez le podcast Marketing Mania et si vous appréciez cette nouvelle vague d'épisodes, laissez-moi une évaluation 5 étoiles sur iTunes ou sur la plateforme de podcast de votre choix. Ça aide énormément le podcast à continuer à être bien référencé et continuer à pouvoir avoir des invités intéressants. Ça vous prendra que 2 minutes et ça donnera un petit boost au ranking du podcast qui se porte toujours bien sur iTunes grâce à votre soutien continu. Bien sûr, on ne peut laisser l'évaluation qu'une fois, donc ça se repose toujours sur le fait que de nouvelles personnes vont se dire « Tiens, après avoir écouté Marketing Mania pendant 2 ans et demi, aujourd'hui, c'est le jour où je vais laisser une évaluation. » Et peut-être que aujourd'hui, ce sera le jour où vous allez laisser une évaluation. Deuxième chose, c'est l'offre de coaching. On a parlé beaucoup dans cet épisode de copywriting. Si vous voulez appliquer le copywriting sur votre site, écrire des pages de vente, écrire des emails de vente qui vont être convaincants, l'équipe de Marketing Mania fait ça et fait ça très bien sur notre product business avec des clients. Si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous aimeriez avoir un avis d'expert dessus, sur comment est-ce que vous allez structurer vos pages, comment est-ce que vous allez écrire, quelqu'un qui peut relire vos pages en direct avec vous et vous donner du feedback sur ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien, on a maintenant une offre d'accompagnement one-on-one, donc directement vous et un coach sur un appel pendant 1 heure. Ça s'appelle l'accélérateur, c'est disponible à l'adresse marketingmania.fr/coaching. Vous pouvez gratuitement à cette page prendre un appel stratégique, parler de votre situation, discuter, voir si ça peut vous aider ou non. Il n'y a pas d'engagement, c'est simplement une manière de comprendre vos besoins et de présenter ce qu'on peut ou ne peut pas vous apporter. On est fort sur 3 points. Numéro 1, la création de contenu. Numéro 2, la capture de prospects, la conversion. Numéro 3, la vente par email, par page de vente. Si des projets que vous avez sur la table en ce moment, des choses qui vous préoccupent, des choses sur lesquelles vous voulez être sûr de vraiment pas vous rater, prenez un appel avec un coach. Essayez de comprendre comment est-ce qu'on peut progresser ensemble. L'adresse, c'est marketingmania.fr/coaching. Sur ce, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine, pour le prochain épisode du podcast Marketing Mania.